Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, nous avons choisi de vous emmener en voyage avec un écrivain américain et non des moindres, puisqu'il s'agit de Russell Banks. Bonjour Russell Banks.
Bonjour.
J'en profite aussi pour saluer Michel Zlotowski qui va vous interpréter pendant 7 heures. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors merci à tous les deux de passer 7 heures avec nous. Russell Banks, vous participez au festival Oh les beaux jours à Marseille. Vous venez d'atterrir, elle vous semble aller comment, cette France que vous décriviez après les attentats comme pleine de peur et de colère?
Well, I was here in October last time, and there was incredible anxiety over
the election. La dernière fois que j'étais ici, c'était en octobre dernier, il y avait beaucoup d'angoisse au vu des élections à venir, spécialement après l'élection de Trump aux États-Unis. Et moi, je regardais ça avec angoisse aussi parce que j'aime la France, j'ai beaucoup d'amis ici. Ça fait plus de 30 ans que je viens et reviens en France. Ça
ne
m'a pas aidé à apprendre le français, malheureusement. Je sens comme si vous avez réussi à éviter les balles, comme on dit aux États-Unis. Les balles qui nous ont atteintes très justement au cœur en novembre dernier. Et je suis soulagé, je suis content. Je ne sais pas si c'est la personne pour laquelle j'aurais voté moi-même, mais bon, il n'est pas fou. Et puis c'est pas un fasciste.
Et
il ne semble pas être raciste non plus.
Et
je pense que ça en dit beaucoup pour l'avenir immédiat pour la France, peut-être pas pour l'avenir à long terme, mais au moins. Vraiment, c'était. Félicitations parce que vous êtes passé très près. Mais ce qui s'est passé dans notre élection aux États-Unis, c'est que quelque chose de mortel s'est produit dans cette élection de Donald Trump. Et pour moi, peut-être que je suis trop pessimiste, mais je ne suis pas certain que l'on puisse guérir des conséquences de cette élection et des conditions qui l'ont fait émerger. Donald Trump lui-même n'est pas tellement anormal quand on pense aux conditions qui ont créé Donald Trump, qui l'ont fait venir depuis des décennies, depuis avant même Donald Reagan. Mais bon, ça s'est vraiment développé pendant les années Reagan, dans les années 90. Et finalement, quelqu'un comme Donald Trump devait être élu, étant donné le changement dans la structure économique, dans la structure des entreprises, dans les institutions politiques aux États-Unis au cours des 30 dernières années, où le divertissement, la politique se sont rejoints finalement. La technologie du divertissement est devenue vraiment prédominante. Et les décisions de la Cour suprême ont permis aux entreprises d'investir dans des politiciens comme s'ils achetaient d'autres entreprises.
Est-ce que c'est quand même pas un personnage absolument romanesque, Donald Trump, qu'on n'a jamais vu, je veux dire, sur la scène politique?
C'est quasiment une auto-caricature. C'est intéressant comment on peut dépeindre quelqu'un comme ça dans un roman. Chaque matin, je me précipite sur les journaux parce que c'est comme lire un personnage de Dickens. Vraiment, c'est quelqu'un de remarquable de ce point de vue-là. Ça rend les choses très difficiles. Le dernier président que les romanciers ont eu du mal à portraiturer de la même manière, ça a été Nixon. Mais on pouvait toujours trouver un moyen de voir dans l'âme de Nixon. Robert Hoover a écrit quelque chose de bien sur Nixon, un bon roman. Il y avait quelque chose à l'intérieur, il y avait un être humain. Je ne suis pas certain qu'on puisse le faire avec Trump. Il est tellement bidimensionnel. Il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour voir à l'intérieur de lui et de trouver quelqu'un, un petit bonhomme qui ne soit pas sûr de lui ou chose comme ça. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas le bon romancier pour le faire.
Alors, vous êtes Russell Bunk, je le rappelle, né le 28 mars 1940 dans le Massachusetts, et vous avez été élevé dans une petite ville du New Hampshire. Tout jeune, vous avez eu la ferme intention, alors que vous étiez à l'université, de rejoindre Fidel Castro et ses insurgés à Cuba, avant de trouver une autre cause dans la littérature. Vous êtes en effet estampillé comme l'écrivain engagé, l'écrivain progressiste, l'écrivain de gauche. Votre œuvre est en effet marquée par l'exploration des barrières sociales, des barrières raciales. Je pense à Milton Stark ou au livre de Jamaïque, à Continent à la dérive, qui se construisait selon deux points de vue, celui d'un ouvrier blanc et d'une réfugiée haïtienne qui, tous les deux, bougeaient jusqu'à la Floride. Vous êtes riche d'une certaine expérience du monde et vos livres, comme American Darling, emmènent le lecteur dans la guerre civile au Libéria, ou si je pense à un autre de vos livres, Sous le règne de Bone, dans les drames qui secouent les petites villes américaines. Vous avez accompli énormément de voyages, on le voit dans ce dernier livre, Voyager, qui vient de paraître chez Actes Sud. D'ailleurs, on dit Voyager ou Voyager, parce qu'en fait, ce titre fait référence au satellite Russell Banks.
Ça dépend de la façon de prononcer le nom du satellite, je pense que si vous le dites Voyager, comme nous on le fait aux États-Unis, c'est le titre du roman qui devrait être le même en français d'ailleurs. C'est comme un nom de voiture, Cadillac ou Ford.
Parce que
l'image du satellite est véritablement au centre de cet essai. Et finalement, du livre entier, c'est une métaphore que j'ai trouvée utile et qui résonnait pour moi à la fois dans l'écriture du livre, mais aussi dans ma vie elle-même. Ce satellite, si vous en souvenez, c'est celui qui a été créé pour voyager à travers le système solaire et en évitant de tomber dans l'orbite des champs de gravité des 9 planètes du système solaire et graduellement et finalement s'échapper à l'héliosphère et aller dans les espaces infinis. Et c'était véritablement une expérience ou une image émouvante pour moi. Et en quelque sorte, c'est la perspective que doit maintenir un écrivain tout au long de sa vie, où il faut être capable de visiter, de survoler, observer, mais ne jamais être attiré dans l'orbite des planètes que vous survolez.
Mais pourtant, l'engagement, quand on a parlé d'engagement à votre propos, ou si on prend les grands écrivains engagés, je sais pas, les Hemingway, Sartre, allons-y, ce sont des gens qui ont été aspirés justement par l'orbite de certaines planètes, par exemple. Est-ce que c'est pas aussi l'une des fonctions du romancier de se laisser absorber par certaines planètes, c'est-à-dire par certaines causes?
Oui, on peut être absorbé par le destin de l'espèce humaine, mais il faut faire très attention à ne pas être attiré dans les orbites de l'idéologie, des causes, des programmes. On peut le faire en tant que citoyen, certainement. Et moi, je l'ai fait en tant que citoyen. Hemingway l'a fait aussi en tant que citoyen. Je ne suis pas tellement sûr au sujet de Sartre. Hemingway était de façon intéressante différent de Sartre. On ne peut jamais véritablement dire « Ah ouais, il est la façon dont il écrit, est-ce qu'il est marxiste, est-ce qu'il ne l'est pas ?» Et je crois qu'il était très très près de cela en deux moments, lors de la guerre civile espagnole, lorsqu'il était très proche des républicains. Mais ce qui l'inquiétait, c'est les êtres humains, les individus. C'est en ça qu'il était écrivain, un storyteller, un raconteur d'histoire. Et sur le second point, politiquement, il était quasiment séduit par une cause, c'est celle de Fidel Castro, qu'il connaissait un peu. Mais il était assez sceptique à son sujet, de bout en bout. Et quand Castro a pris le pouvoir, Castro a essayé très très dur d'être photographié avec Hemingway parce que c'était bon pour la réputation de Castro. Et il a essayé de l'éviter.
Vous avez été aussi, Russell Banks, président du Parlement des écrivains, qui a été fondé par Salman Rushdie. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de structure, un Parlement des écrivains? Est-ce que les écrivains ont besoin d'un Parlement, et pour faire passer quelle loi?
Auto-élu, auto-proclamé, oui. Président du Parlement des écrivains. Je crois que c'était un choix infortuné pour le nom, parce que ce n'était pas un bon nom pour cela. Ce n'était pas un Parlement. C'était une organisation d'écrivains créée pour venir en aide aux écrivains qui étaient menacés. Et grâce à la collaboration d'un certain nombre de villes, ils pouvaient trouver un refuge pour ces écrivains, pour qu'ils puissent se loger. C'était établi par Rushdie et beaucoup d'autres écrivains. C'était un groupe international. Les écrivains américains, à l'époque, étaient avec Toni Morrison et Susan Sontag et des gens de la sorte, moi-même aussi. Mais c'était vraiment un rassemblement d'écrivains, un groupe de soutien. Bon, ça a évolué au cours des années, jusqu'au point que c'est administré en Norvège. Il y a 26 villes refuges en Europe occidentale et aux États-Unis.
Mais il faut justement des structures comme ça pour protéger les écrivains? Pensez que c'est
Il semble que oui. Chaque fois qu'un régime autoritaire cherche des ennemis, les premiers ennemis qu'il trouve, ce sont les écrivains. Que ce soit en Chine, en Arabie Saoudite, en Turquie, ou nulle part, ou autre part, de toute façon. Il y a une campagne en ce moment aux États-Unis contre les journalistes, ou au Mexique aussi, parce que les écrivains sont véritablement un défi pour les régimes autoritaires. Et le résultat, c'est que s'ils ne sont pas abattus ou emprisonnés, et donc ils sont exilés. Ils sont rejetés de leur propre pays. Et oui, absolument, ils ont besoin d'aide. Et qui peut les aider mieux que des écrivains libres? Ceux d'entre nous qui sont en Occident et qui sont capables, dans tous les cas, de fournir ce soutien. On n'a pas d'argent pour le faire. On n'a pas de propriété immobilière, sinon de petites maisons, mais on peut trouver des moyens pour les aider. Et des organisations comme PEN International et Journalistes sans frontières, etc., qui font partie grosso modo de la même sphère, des écrivains qui aident les écrivains.
Je voudrais qu'on revienne un moment, Russell Banks, sur un épisode de votre vie qui a été assez mal compris en fait en France. C'était avec le PEN Club, quand il avait été question de remettre, vous vous souvenez, le prix de la liberté d'expression à Charlie Hebdo, à ces dessinateurs morts à cause de leurs dessins. Vous aviez été contre à l'époque. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette prise de position qui, c'est vrai, n'avait pas été tout à fait comprise, notamment en France?
Je l'ai déjà expliqué à nombreuses reprises. Et je pense que ça n'a pas était bien compris, ou peut-être que je n'ai pas suffisamment bien communiqué. Je n'étais pas contre honorer la mémoire des dessinateurs de Charlie Hebdo. C'était un acte absolument horrible, et à l'évidence un crime contre l'humanité, et aussi une tentative d'intimider et de faire taire la liberté d'expression. Ce à quoi je m'opposais, c'était que le PEN donne cette récompense à Charlie à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, Charlie était la victime la plus célèbre de la censure ou de l'intimidation ou de la violence au monde. Et le PEN, lors de leur gala mondial, remet une récompense pour la liberté d'expression chaque année. Et par le passé, quand moi j'étais au conseil d'administration, moi je suis membre du club américain PEN. Par le passé, il a été donné cette récompense à des écrivains dont le nom est difficile à prononcer pour les Américains, dont le visage n'est pas connu, qui sont en prison quelque part en Tchétchénie ou au Soudan. Ça fait une énorme différence dans la vie de ces individus, parce que ça tourne tous les projecteurs de l'Occident sur ces personnes. et cette l'organisation la plus influente du PEN, c'est celle des États-Unis justement. Et donc ça éclaire cette pauvre âme qui était véritablement dans les geôles. Charlie n'était pas dans les geôles. Charlie n'était pas dans l'obscurité. Vous savez, ça a semblé que un cas où ce qu'on appelle ça aux États-Unis, c'est la queue qui remue la tête du chien, et pas l'inverse, n'est-ce pas? Bien sûr, Charlie méritait d'être remercié et récompensé partout dans le monde, mais pas de cette manière-là. Donc, il semblait être une perte de l'autorité morale du PEN en, comment dire, en banalisant cela. Et c'est pour ça que j'étais contre. Moi, j'étais pas du tout contre Charlie Hebdo.
Mais ça banalisait. C'est le mot. Pour vous, ça banalisait.
Oui, exactement. Ça banalisait.
Alors, on va continuer avec vous, Russell Banks, et parler de votre nouveau recueil, de votre œuvre aussi, de ce que c'est qu'un écrivain, de ce que c'est d'écrire aussi et de prendre position. On écoute votre premier choix musical. Vous avez choisi Neil Young and Crazy Horse, This Land is Your Land. Pourquoi ce choix musical, Russell Banks?
You asked me that in advance to
vous m'avez demandé à l'avance
de
trouver trois passages musicaux. Et après les avoir choisis, ceux que j'aimais bien, eh bien, c'était des morceaux qui étaient très populaires durant l'ère de la dépression aux États-Unis, les années 30. Your land, this land is your land. Ce pays est ton pays. Il y avait cette crainte. Et cette résurgence de la croyance aussi dans des principes fondamentaux de la démocratie en 1930. Il y avait un optimisme et un espoir derrière ça. Quelque chose qui nous manque aujourd'hui, même si les conditions auxquelles on doit faire face sont assez semblables à celles des années 30, avec ce fossé entre les riches et les pauvres.
In the case of that particular song,
et dans ce cas précis,
Neil Young,
ce morceau-là, j'aime beaucoup Neil Young.
And that particular version of that
et cette version particulière de ce morceau, c'est quelque chose qui appartient à Woody Guthrie.
And it has everything to do with.
Et ça a beaucoup à voir avec la guerre contre cette notion de This land is your land. Cette terre est ta terre et votre terre.
Right now being conducted by the Trump administration.
Menée actuellement par l'administration Trump. Yeah.
Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de bruit.
Trompette.
Because of the noise, yes.
Oui, oui, à cause du bruit. Exactement.
On écoute Neil Young and Crazy Horse. This land is your land.
This land is your land. This land is my land. From California to the New York.
Neil Young and Crazy Horse, This Land is Your Land. C'est le premier choix musical de Russell Banks avec qui nous passons ce temps des écrivains. Alors vous publiez ce nouveau livre, Voyager, Russell Banks, qui paraît chez Actes Sud. C'est un recueil de récits de voyage à travers le monde, d'une destination à l'autre, des Caraïbes à l'Alaska, des Seychelles aux Andes et à l'Himalaya. Le voyage apparaît comme le thème commun de tous ces récits. C'est soit la recherche d'un exutoire, d'un idéal ou une simple fuite. La notion de fuite est très très importante chez vous. On a l'impression aussi qu'avec ce livre, finalement, vous exposez une suite de défis réalisés
réalisé ou non. Par exemple, aux Caraïbes, l'idée de revivre son passé en répétant une expérience. Vous revenez avec le chapitre sur Chapel Hill, votre université, sur la conscience des changements qu'opère l'écoulement du temps. Aux Seychelles et en Alaska, il s'agit de réaliser l'insignifiance de l'homme face à une nature qu'il détruit, consciemment ou pas. Dans les Andes et l'Himalaya, on est au contraire dans l'idée de repousser ses limites physiques pour interroger aussi peut-être la vieillesse. Finalement, j'ai eu l'impression, le lisant, que c'est moins une série de pérégrinations qu'une façon de vous raconter vous-même, voire de vous comprendre.
I'm glad you read it that way.
I je suis très heureux que vous l'ayez lu de cette manière, et j'espère que ça sera lu de la sorte, en tant que narratif, récit, à travers tout le livre, plutôt qu'une accumulation de petites nouvelles. La première nouvelle, qui prend quasiment la moitié de tout le livre, mène aux autres qui suivent. Et ce livre est destiné à être une méditation sur le mariage et sur l'âge. C'est un livre que je n'aurais pas pu écrire lorsque j'étais beaucoup plus jeune, ou même il y a quelques années. Vous savez, j'ai 77 ans et j'ai écrit ce livre au milieu de mes années 70. Quand on regarde en arrière, vous savez, quand vous commencez à regarder en arrière, c'est peut-être beaucoup plus nécessaire à faire que de regarder vers l'avant, parce que qui veut regarder de l'avant quand vous êtes 77? Tout ce que vous pouvez voir, c'est le grand 80. Il y avait quelques mystères dans ma propre vie dont j'étais plus conscient que je ne l'ai jamais été. Le mystère du mariage, du remariage et re-remariage. La première phrase, c'est un homme qui a été marié 4 fois a beaucoup d'explications à donner. C'est la première phrase du livre.
Oui, c'est la première phrase. Je vais le lire d'ailleurs.
Mon père aussi avait ce genre d'explications à donner, et moi aussi.
Je vais lire le début. Voyager. Un homme qui s'est marié 4 fois a bien des explications à fournir. Surtout peut-être s'agissant d'un homme originaire du nord de la Nouvelle-Angleterre, âgé de quelque 75 ans, qui depuis son adolescence a toujours rêvé d'évasion, de jeunesse perpétuelle, d'incalculable richesse, de renouveau érotique, narcotique ou sybaritique, de grandes aventures amoureuses, de mystères et d'intrigues, et qui, très souvent, a dirigé ses rêves vers les Caraïbes. Il y a l'idée dans ce livre du recommencement, justement. Vous parliez de méditation. Qu'est-ce que signifient ces recommencements? Est-ce que, finalement, vous parliez du grand 80, est-ce que, finalement, vous définiriez l'écriture, Russell Banks, comme aussi quelque chose qui est lié aux expériences qu'on a vécues? Moi, je pensais que, bien sûr, il y a les expériences, les moments qu'on a traversés, mais aussi les lectures qu'on a faites. Vous trouvez-vous que l'expérience change la façon dont on écrit aujourd'hui, que finalement le Russell Banks de 70 ans n'est plus ce jeune homme qu'on voit sur la couverture, qui a 22 ans et qui tient ses clés de contact pour un énième recommencement?
Oui, la cigarette dans une main et les clés de contact dans l'autre. Oui. J'aime beaucoup cette photo. C'est comme une photo du jeune Elvis,
ou
peut-être du jeune Kerouac.
Quelqu'un
prêt à sauter dans la voiture et à se diriger vers l'ouest.
Mais aussi,
chaque voyage est aussi un voyage vers l'intérieur. Et j'essaie d'empiler, de mettre cette expérience dans ces nouvelles. Quand j'explique et que je décris le monde extérieur, je veux aussi décrire le voyage intérieur. Et vous me posez cette question, est-ce qu'avec le temps, j'ai trouvé que ma relation avec l'écriture a changé? Je pense que oui. Je n'aurais pas tenté d'écrire ce livre plus tôt. J'ai toujours évité l'autobiographie ou de l'écriture autobiographique. Simplement parce que je ne pensais pas que ma vie était tellement intéressante et que j'étais beaucoup plus intéressé par la vie des autres personnes que la mienne propre. Mais que, au point où j'en suis aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait des mystères sur mes propres mariages, mes relations avec mes femmes, mes épouses, la question du vieillissement, du processus, je dirais pas de désintégration, mais de perte, qui m'a contraint de regarder plus à l'intérieur de moi-même que je ne le faisais par le passé.
Est-ce que vous diriez que plus l'âge venant, finalement, un écrivain, en tout cas pour ce qui vous concerne, écrit plus pour soi que pour les autres? C'est vrai, quand on se souvient de vos premiers livres étaient extrêmement engagés, et là maintenant, finalement, l'écrivain de gauche, l'écrivain progressiste Russell Banks, nous parle de méditation et de voyage intérieur. Vous avez changé d'idée de la littérature ?
J'en suis pas conscient de cela. Le roman sur lequel je travaille en ce moment même est un roman historique. La fin des sociétés utopistes américaines du 19e et du 20e siècle.
Et
c'est très politique, je pense.
Themes and
dans
so
ces
on.
Sujets.
I don't think I've changed.
Je ne pense pas que j'ai changé. En fait, je tente d'utiliser cette occasion. C'est un paradoxe parce que ce qui se passe d'ordinaire pour un écrivain quand il ou elle vieillit, ils ont tendance à se répéter.
Whereas I don't think that's
moi,
my problem.
Je ne pense pas que ce soit mon problème, en fait.
My problem might be
mon
that
problème pourrait
I,
être que
I do something different every
je fais quelque
time.
Chose de différent à chaque fois.
Mm.
Je ne sais pas si c'est un problème, ça.
Vous citez Marguerite Yourcenar à l'orée de ce livre, dans les mémoires d'Adrien. Je cite ces quelques phrases. « Comme le voyageur qui navigue entre les îles de l'archipel voit la buée lumineuse se lever vers le soir et découvre peu à peu la ligne du rivage, je commence à apercevoir le profil de ma mort. » Vous parliez de méditation, il y a le mot hein, « mort » ici. Qu'est-ce que ça change, l'horizon de la mort, justement, pour l'écrivain que vous êtes? Est-ce que ça change aussi votre rapport à l'écriture?
Oui, bien sûr.
I think when I was a young man,
quand
like many young
un jeune homme,
men, particularly,
comme
perhaps,
beaucoup d'hommes,
I romanticized death.
C'était quelque chose de très lointain. Je romançais la mort.
This stage of my life,
et arrivé à ce stade de ma vie, je peux voir maintenant que c'est inévitable et que ça se rapproche de plus en plus, ou plutôt que c'est moi qui m'en rapproche de plus en plus, comme le dit Marguerite Yourcenar. C'est comme une ouverture utile à ce livre, cette citation, et une façon de demander au lecteur de le lire. Je veux que le lecteur le lise comme si c'était vraiment quelque chose qui portait sur un homme qui est devenu conscient de l'imminence de sa propre mort, qui est sur le point de se produire.
Course of his long life and,
et puis, à l'issue de sa longue vie, il vaut mieux être prêt pour cela. Et il faut se comprendre beaucoup mieux qu'il ne l'a fait par le passé. La citation de Yourcenar, pour moi, était une merveilleuse façon de réfléchir à mon livre. Ça m'a guidé. Je l'ai écrit, et puis je l'ai mis au-dessus de mon ordinateur, et donc je la voyais tous les jours, et j'y réfléchissais tous les jours.
Et
puis, au cours des dernières années, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu beaucoup d'amis. Beaucoup sont nommés dans l'incipit du livre, C.K. Williams, James Tate, Jim Harrison. Vous savez, on commence à entendre et à voir les arbres qui tombent dans la forêt, et vous savez que vous en faites partie et que vous ne pouvez pas l'éviter.
C'est drôle que vous convoquiez l'image des arbres dans la forêt, parce que il y a une image qui vous a marqué quand vous étiez jeune homme, c'est l'image d'un Robin des Bois, comme vous disiez, dans la Caribbean Jungle, dans la jungle caribéenne. C'était à l'époque où vous vouliez rejoindre Fidel Castro. Est-ce que finalement vous savez maintenant pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de cette aventure et de cette mythologie, de cette image que vous aviez d'un jeune homme, d'un Robin des Bois, allant finalement dans la forêt de Sherwood, qui était la forêt cubaine? Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout dans cette image de...
That's a funny way to think of Cuba as Sherwood Forest.
C'était vous, hein?
De comparer la forêt cubaine de la forêt de Sherwood.
Fidel and Che and the,
pas très loin de ma vision de Fidel, du Che et des révolutionnaires dans leurs montagnes comme Robin des Bois et sa troupe. Et pour répondre à votre question pourquoi je ne suis pas allé, c'est très pratique parce que Fidel a réussi sa révolution en 59, en janvier. C'était trop tard pour la révolution, donc je n'ai pas pu y aller. Et la deuxième chose, c'était que je ne savais pas comment y aller. J'étais à Miami, mais je ne parlais pas l'espagnol. Je ne savais pas vraiment comment traverser.
Est-ce qu'il fallait en passer par tous ces voyages que vous nous racontez dans Voyager, et quand on regarde aussi tous les livres que vous avez écrits aussi et qui sont aussi imprégnés par ces voyages, par ces expériences, est-ce qu'il fallait en passer par tous ces voyages pour devenir écrivain ?
Non. Il n'a pas fallu que j'écrive tous ces livres pour devenir écrivain. J'aurais pu écrire des livres différents. Ma vie aurait été différente. J'aurais toujours été écrivain. Je pense que j'ai écrit ces livres parce que c'est une expression continue de mon caractère, de ma personnalité, ma psychologie aussi. Chaque corps de travail de l'œuvre. Hein, en fait, vous avez un corpus hein, quand vous avez 70 ans. C'est comme votre propre corps physique. C'est votre forme. C'est aussi haut que vous l'êtes, aussi large que vous. Et puis, ça a autant de membres que vous. Ou aussi peu. Que ce que vous êtes, si vous êtes handicapé, par exemple. Mais le corpus de mon œuvre était aussi une expression de ma vie intérieure, tout comme mon corps physique est l'expression extérieure, visible, de mon moi. Donc poser la question sur est-ce que ça aurait été différent ? C'est comme vous poser cette question. Est-ce que vous auriez été différent ? C'est difficile à répondre parce que le travail informe et forme l'écrivain. Et l'écrivain est changé par le travail. Donc le livre suivant est différent du livre précédent. Parce que dans le cours de l'écriture, l'écrivain a changé. Et le livre que j'écris en ce moment est informé par le livre que je viens de terminer, Voyageur. Mais ça m'a changé d'écrire ce livre, Voyageur. Ça m'a changé de telle sorte que ce changement est reflété par le livre que j'écris maintenant.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tant ce que vous devenez qui conditionne de nouveaux livres. Ce sont les livres que vous écrivez qui vous façonnent, qui vous donnent une nouvelle forme.
C'est exactement ce que j'essaie d'exprimer.
J'écris un livre en ce moment
qui est un roman narré par un homme de 80 ans qui regarde sa vie, qui essaie de comprendre ce qui lui est arrivé quand il était très jeune, quand il avait 11, 12, 14 ans, et puis après, quand il avait 20 ans. Je pense que je n'aurais pas voulu ou aimé écrire un tel livre par le passé. Moi, j'ai passé beaucoup d'énergie à écrire Voyager et de m'occuper de mon propre vieillissement.
On va continuer avec vous, Russell Banks, et écouter votre deuxième choix musical. Alors, vous avez choisi Hazel Dickens et Alice Gerhardt, Working Girls Blues. Pourquoi ce choix musical ?
Oh, I love this song.
J'aime beaucoup ce morceau.
It's an Appalachian song.
C'est une chanson des Appalaches et aussi de l'époque de la Grande Dépression.
I like it because, for one thing, it's a woman's point of view.
C'est le point de vue d'une femme.
Most of Woody Guthrie's songs are
la plupart des chansons de Woody Guthrie, ce sont des chansons qui présentent le point de vue d'un homme. Les blues aussi sont des points de vue masculins. Et ça, c'est un blues féminin. C'est sur la pauvreté, la façon dont la pauvreté affecte les femmes et les enfants. Et ça ne passe pas souvent dans la musique à cette époque-là ou même aujourd'hui. On n'entend pas beaucoup de chansons populaires aujourd'hui qui parlent de la façon dont la pauvreté affecte les femmes et les enfants. Ça les affecte beaucoup plus directement et de façon beaucoup plus douloureuse que ça affecte les hommes.
Put on my ragged, worn-out working shoes. Oh, well, the weekend was too short, but I can't choose. When the Lord made the working girl, He made the blues. Well, I'm tired of working my life away and giving somebody else all of my.
Hazel Dickens et Alice Gerard, Working Girls Blues, c'est le deuxième choix musical de Russell Banks avec qui nous passons cette heure du temps des écrivains. Russell Banks, vous publiez Voyager chez Actes Sud. Je voulais qu'on revienne aussi sur quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais dont j'aimerais quand même, justement avec le temps qui passe, qu'on reparle. Dans votre travail d'écrivain, évidemment, une grande place est accordée au milieu défavorisé, où l'alcoolisme, la pornographie, la pédophilie, la violence, l'exclusion, les marginaux sont extrêmement présents. Je me souviens aussi dans la réserve, Jordan Groves était à sa manière perçu comme un dangereux communiste, une sorte de paria lui aussi. Et je me souviens que vous écriviez dans Continent à la dérive, « Va mon livre et contribue à détruire le monde » tel qu'il est. Et vous ajoutiez, Russell Banks, que les vies inventées, donc les vies des personnages, contribuent à enlever au monde un peu de la cupidité dont il a besoin pour continuer à être lui-même. Est-ce que maintenant aussi, vous savez pourquoi vous avez accordé tant d'importance à ce monde des exclus, à ce monde de l'Amérique pauvre ? Est-ce que vous considérez qu'en tant qu'écrivain, vous aviez une mission à le faire?
Oui,
je pense que je l'ai considéré comme une mission dans un certain sens. Peut-être de façon intuitive et inconsciente, en suivant mes inclinations, mes sympathies, mes émotions, mon identification, si vous préférez, avec les autres, qui était marginalisé. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que je suis pris par l'idéologie. Est-ce que j'ai un programme que je promeus, un programme politique? Non, c'est quelque chose de très personnel, de subjectif. En tant que jeune garçon, très tôt dans ma vie, quand je le considère maintenant, vous savez, les années 40, les années 50, quand j'étais jeune garçon, ma famille était marginalisée. Selon les conventions de l'époque, pas seulement par la pauvreté, mais par le divorce, l'alcoolisme, la violence. J'étais l'aîné de 4 enfants. Ma mère était seule à nous élever tous les 4. Et je me sentais marginalisé. Selon les conventions sociales et morales des années 50, en tant que famille, nous étions marginalisés. Et à partir de ce moment-là, de cette perspective-là, je devrais dire, ce n'était pas un grand saut dans l'inconnu de regarder autour de moi et de voir d'autres qui se sentaient comme moi je m'étais senti à cette époque-là de ma vie. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a plus de gens comme nous qui n'étaient pas marginalisés. La grande majorité des êtres humains sont en fait marginalisés, et peut-être de plus en plus, par la race, le genre, la classe.
Oui, mais sur votre regard d'écrivain, il fallait justement, c'était une mission d'écrivain, vous auriez pu écrire finalement sur ceux qui sont moins nombreux, sur les minorités qui échappaient à l'exclusion. Néanmoins, vous avez choisi d'être un écrivain
de gauche, un écrivain qui parle justement des défavorisés, qui les met en scène dans ses romans.
Yes, I don't think it's a choice though. That's
the difference. Je pense pas que c'était un choix.
It's something that is done out of
both felt necessity, qui a été faite par la nécessité et un besoin émotionnel, aussi peut-être
ease of identification,
une facilité d'identification, et d'écrire sur des expériences que j'avais vues de très près. Pas obligatoirement de ma vie propre. En fait, je l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est mu par l'idéologie. Je ne me considère pas comme un gauchiste. Je me considère comme un citoyen de gauche. Mais comme écrivain, je ne suis ni à gauche, ni à droite. Je
n'ai
pas de position politique en tant qu'écrivain. En tant qu'écrivain, je refuse de juger et je refuse de sentimentaliser les deux pôles que j'ai essayé d'éviter tout au long de ma vie d'écrivain. En tant que citoyen, je me sens libre de juger et véritablement d'avoir des sentiments très proches.
Oui, mais quand on lit par exemple « Lointain souvenir de la peau » où vous parliez justement d'un délinquant sexuel, on sentait que quand même l'écrivain était au fond du côté d'un constat terrible qui fait que la société projette son agressivité finalement sur ses délinquants sexuels parce que peut-être elle souffre de culpabilité pour n'avoir pas assez protégé ses enfants du consumérisme, de la pornographie. Donc on sent aussi vos opinions dans les livres.
Je ne sais pas si vous sentez mes opinions autant que mes sympathies. Si vous lisez ce roman avec un esprit ouvert et un cœur naïf, eh bien, vous aurez de la sympathie pour ce jeune homme qui est au cœur de mon roman. Et même, vous aurez des sentiments plus sombres vis-à-vis de ce professeur qui devient son ennemi dans ce
livre. Son Long John Silver. A kind of Long John Silver de l'île au trésor.
Oui, oui, c'est un petit peu la... C'est l'île au trésor, c'est la structure secrète de ce livre. Oui. Chaque roman, je pense que c'est vrai pour beaucoup d'écrivains, beaucoup de romans, il y a un roman fantôme derrière. Ça peut être Moby Dick, ça peut être Hamlet, ça peut être la Bible. Mais là, dans ce roman que vous avez cité, cette nouvelle, c'est L'île au trésor, oui, effectivement.
Mais
ce sont des sympathies, des inclinations que j'ai éprouvées pour ce garçon qui est au cœur du récit et qui amène le lecteur qui comprend mieux ce que ça signifie d'être condamné par la société comme étant un criminel sexuel. Même si dans ce cas-là, c'était simplement une addiction à la pornographie et une perte de sa vie érotique. Il s'est perdu dans le monde numérique et son incapacité à faire la différence entre le monde érotique physique où son corps est présent et les images numériques.
Ça vous effraie, ça, justement, le fait que peu à peu, l'humanité perde une partie de son humanité en se frottant, finalement, un peu trop au virtuel. D'ailleurs, ce titre « Lointain souvenir de la peau » disait un peu cela. C'est quelque chose qui vous effraie, vous qui observez comme la sonde Voyager l'humanité ?
Yeah, it does scare me.
Bien sûr, ça m'effraie.
Lost Memory of Skin was a title that seemed to describe exactly the plight of well, this particular kid, but also of the
J'essayais de voir quelle était la dérive de ce jeune garçon. Mais c'est aussi celle de toute une génération qui est devenue parent. Aujourd'hui, ils n'ont aucune mémoire d'une vie avant la numérisation de leur réalité. Oui, oui, ça m'effraie. Les cerveaux, leurs cerveaux sont différents. Moi, j'ai un petit-fils qui a 9 ans et je pense que son cerveau est différent du mien de façon physique. Sur le plan neurologique, ça a été reprogrammé différemment. Depuis son enfance, lui, il est entouré de la numérisation de la réalité.
Vous qui
souvent expliqué que vous vous situez dans une longue tradition de raconteurs d'histoires qui remonterait à Homère. Est-ce que vous pensez, au fond, que la littérature, ces histoires que l'on raconte à travers les livres, pourraient, au fond, disparaître comme art?
Le système de production, de livraison pour les récits, ben, un livre, c'est simplement ça, c'est une façon de livrer un récit. Et bien, ça a changé au cours de ma propre vie.
Pour moi, j'ai commencé, Hemingway was still alive,
ma vie d'écrivain, Faulkner, Hemingway,
Jack Kerouac
était encore vivant. Et le roman était considéré comme le mode fondamental du récit dans notre civilisation. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Il y a différentes sortes de cinéma, de télévision, de streaming sur nos ordinateurs, sur nos divers écrans. Vous voyez ce qui se passe à Cannes en ce moment avec...
Avec Netflix, voilà.
Exactement, oui. C'est vraiment un moment de transition qui est extrêmement important. Mais pas en termes de récit, mais en termes de façon de livrer ce récit. Et c'est ça le changement. Vous savez, le livre, c'est simplement un support. Autrefois, il y avait des rouleaux, il y avait des papyrus, il y avait des tablettes cunéiformes. C'est un processus qui s'est poursuivi. Donc je ne pense pas que le récit va disparaître. Les êtres humains ont besoin de récits pour que leur vie soit cohérente. Mais c'est la façon dont on reçoit l'histoire, le support. Ça finalement, ça changera. Et de façon inévitable, on ne peut rien y faire. Il faut s'adapter.
Et quel conseil vous donneriez justement à un jeune écrivain qui veut livrer cette histoire si justement le support n'est plus le livre aujourd'hui, ou n'est plus la fiction littéraire, mais une série par exemple, ou un film de cinéma?
Je ne peux pas vraiment conseiller des jeunes écrivains, mais je peux, si vous voulez, traiter de la question un petit peu de côté en disant que si moi j'avais 22, 24 ans à nouveau aujourd'hui, plutôt qu'en 1962, quand j'ai débuté, probablement n'essayerais pas d'écrire le grand roman américain. Je n'écrirais pas dans cette tradition-là. Je ne raconterais pas des choses dans la tradition de Faulkner, Hemingway, etc., comme j'avais commencé à le faire. Je crois probablement que je prendrais mon iPhone et que j'en ferais un film. J'essayerais de raconter des histoires de façon visuel, par des moyens visuels, plutôt que par la fiction narrative. Je ne peux pas en être sûr, mais c'est ce que je sens. J'envie quasiment les jeunes écrivains qui ont cette occasion, cette chance de le faire. Ça n'était pas disponible pour moi en tant que jeune homme. Je ne pouvais pas raconter des histoires à ce moment-là. La seule façon de raconter une histoire, c'était, comme mon impulsion primaire l'était, c'était par la fiction.
Votre œuvre, Russell Banks, se partage entre les nouvelles et les romans. Au fond, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, et puis peut-être du manque de temps dont souffrent les contemporains, qui n'ont plus de temps parce qu'il y a les portables, parce qu'il y a énormément de choses à faire, est-ce que finalement l'avenir n'est pas plutôt à la short story, à la nouvelle, qu'au roman? Est-ce que le roman, vous pensez que c'est un genre qui peut perdurer encore longtemps?
Je pense que oui. Les gens sont prêts à donner beaucoup d'attention à ces séries de Netflix ou d'Amazon ou d'autres. Et moi, j'étais en avion. J'ai ingurgité trois épisodes. C'est différent dans la façon dont on lisait les romans du 19e siècle, quand on lisait les épisodes des romans de Dickens qui paraissaient dans la presse hebdomadaire. Je pense que, oui, les romans vont continuer. J'aime les développements des séries à la télévision. C'est beaucoup plus facile d'adapter un roman à une série d'aujourd'hui. Je le fais en ce moment avec Cloudsplitters qui est adapté par Fox en une série de 8 épisodes. Rule of Bone est adapté pour la télévision aussi. C'est le format long. Et c'est très bien. Sur une note plus personnelle, je me suis promis que ce roman que j'écris maintenant sera mon dernier roman. Et après, je tournerai mon attention vers les nouvelles.
Oui.
Je ne sais pas si je vais le faire véritablement, mais je pense que... Vous savez, écrire un roman, ça me prend 3 à 5 ans. 5 ans de ma vie. Et à mon âge... 3-5 ans, j'ai pas beaucoup de romans sur l'étagère, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais peut-être que je peux écrire 20 nouvelles, ou 25 nouvelles, peut-être 30, entre maintenant et la fin.
Donc,
j'aime bien la forme, j'aime bien l'écriture, j'aime bien lire. Voilà, donc je vais faire des nouvelles après ce roman.
Quel sera le titre de ce prochain roman?
Je peux vous le dire.
Oui, je pense qu'il y a un titre. Le royaume magique.
Vous avez finalement plus de plaisir à écrire des nouvelles que des romans, Russell Banks?
I can't say more, different.
Je ne peux pas dire plus. C'est un plaisir différent, très différent. Écrire un roman, c'est comme un mariage au long cours. Écrire une nouvelle, c'est comme une petite rencontre amoureuse.
Un week-end.
Donc c'est un plaisir différent. C'est un risque, bien sûr, mais j'aime écrire. Et c'est un aspect différent de mon esprit. Peut-être un esprit différent de mon cerveau littéraire, parce que c'est beaucoup plus proche de l'écriture de la poésie, de la musique, que l'écriture d'un roman. Très engagé de cette manière-là. Quand j'ai commencé très jeune à écrire, j'ai commencé par écrire de la poésie. J'ai publié de la poésie jusqu'à j'ai 30 ans. Et je lis constamment de la poésie. Je suis marié à une poète et écrire des nouvelles, eh bien, ça fait appel à cette partie-là de mon cerveau.
Merci beaucoup, Russell Banks. Je rappelle que vous publiez Voyager chez Actes Sud. On se quitte en écoutant votre dernier choix musical. Vous avez choisi Abe Lincoln, Brother, Can You Spare a Dime? Pourquoi ce choix musical?
Pour les mêmes raisons que j'ai choisi les autres morceaux. Vous savez, c'est un morceau qui a été chanté par un Américain qui a servi pendant la Première Guerre mondiale, qui a construit les canaux, qui a construit l'Amérique, qui a construit les voies ferrées, qui est maintenant abandonné et oublié. Ce phénomène que l'on voit à travers l'Amérique aujourd'hui, on voit beaucoup d'anciens combattants SDF aujourd'hui, d'Afghanistan, d'Irak, du Vietnam. Vous les voyez dans les rues de toutes les villes américaines et qui dit « Hé, camarade, tu peux me filer une pièce ?»
Et c'est ça le sujet du nouveau roman ?
Non,
pas du tout. C'est ce à quoi je pense. C'est bon, probablement que ça fera partie de ce roman.
Et ce royaume magique, alors, ça parlera de quoi ?
Une utopie. Vous savez, les Américains sont des utopistes.
On a commencé par Trump. Je voudrais, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous ne trouvez pas, quand vous voyez ce jeune président français de 39 ans, qui était absolument inconnu aux États-Unis, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, le nouveau monde, qui était l'Amérique, devient l'ancien monde, et que le vieux monde, qui était l'Europe, est en train de devenir le nouveau monde, et peut-être la prochaine utopie ?
Peut-être, je n'en suis pas si sûr. C'est pas parce que vous évitez les balles cette fois-ci, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de recharger le fusil.
Merci beaucoup, Russell Banks.
You're welcome. Thank you.
Say, don't you remember, I'm your pal, buddy, can you spare a dime? ¶¶
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Maya Flandin de la librairie Vivement Dimanche à Lyon, 4 rue du Chariot d'Or plus exactement. Bonjour Maya Flandin.
Bonjour.
Alors vous avez choisi de nous parler de Filles de l'air de Fiona Kidman, c'est publié chez Sabine Vespizer et c'est traduit de l'anglais de Nouvelle-Zélande par Dominique Goy-Blanquet.
Oui, alors en fait, je vous propose finalement de prendre de la hauteur avec ce livre « Filles de l'air », puisque Fiona Kidman revient en fait sur la vie absolument passionnante et trépidante d'une aviatrice célèbre en son temps, qui s'appelait Jean Batten. On la surnommait la Garbo des airs.
Ah, c'est magnifique.
Entendre le genre de personnage. Et également, chez elle, on sent quelque chose du type le feu sous la glace. Vous voyez, c'est là, je pense, qu'on pouvait la comparer à Garbo. Et en fait, ce livre nous permet vraiment de faire revivre ce personnage assez incroyable qui est morte en 82 dans l'anonymat, alors qu'elle avait quand même perpétré plusieurs records dans le domaine de l'aviation. Alors, est-ce qu'on en a très peu parlé parce que c'est une femme ? Point d'interrogation. En tout cas, dès la plus tendre enfance, elle a su que c'était ça qu'elle voulait faire. Mais imaginez, dans les années 20, ça paraissait complètement fou qu'une petite fille dise « Moi, un jour, je vais voler ». Son père était contre. Lui, ce qu'il voulait, c'était qu'elle devienne pianiste. Elle était douée pour tout. Elle aurait pu effectivement devenir concertiste. Elle aurait pu être danseuse. Elle aurait pu faire de la littérature. Et en fait, elle a choisi ça, les carlingues. Et heureusement, pour elle, elle avait une mère absolument incroyable et très moderne qui n'a jamais lâché le rêve de sa fille, qui a tout fait, qui lui a permis d'étudier en cachette le pilotage, en fait, pour pouvoir un jour s'acheter un avion et tenter sa chance.
Et c'est un récit, c'est une biographie ?
Alors, ce qu'on pourrait appeler un récit romancé, c'est-à-dire que Fiona Kidman s'est beaucoup documentée sur le personnage, mais qu'ensuite elle a dû combler des trous et puis ça lui a permis, la forme roman lui permet de donner beaucoup de force à son personnage réellement. Ce qui est très intelligent dans sa façon de nous la décrire, c'est que c'est un personnage qui est très pétillant, très espiègle et en même temps parfois froid et calculateur. C'est-à-dire qu'elle triche pas avec son personnage et elle arrive à faire en sorte qu'on l'aime d'emblée malgré tous ses défauts. Elle était dans un monde très misogyne, il a fallu qu'elle se serve des hommes quand même pour pouvoir parvenir à ses fins et obtenir ce truc chez elle qui était d'obtenir sa liberté en fait en étant capable de piloter seul un avion. Elle a connu des crashs, elle a eu une vie aventureuse à tous les niveaux, au propre comme au figuré. Et en fait, ce qu'elle a réussi à faire, c'est à conquérir sa liberté en s'envolant, quoi.
Parfait, merci beaucoup. Vous nous avez donné très envie de découvrir la Garbo des airs. Merci Maya Flandin de la librairie Vivement Dimanche, 4 rue du Chariot d'Or à Lyon. Et j'invite les auditeurs à entrer dans votre librairie, d'autant que vous avez un grand événement à nous annoncer, Maya.
Oui, alors c'est dans quelques temps, mais on est déjà en train de préparer les choses. On fête les 20 ans de la librairie pendant l'automne, en fait. Donc la librairie aura 20 ans au mois de septembre. On prévoit une grande journée très festive avec des dédicaces, des contes pour les enfants, des spectacles, un dimanche. Alors, pour une fois, ça vaudra vraiment le coup qu'on s'appelle Vivement Dimanche.
Oui, mais
le
fallait.
Dimanche 10 septembre.
Très
voilà.
Bien.
Fallait qu'on ouvre au moins une fois un dimanche. Et puis, on essaiera d'avoir, enfin, je suis en train de travailler, mais c'est encore secret, vraiment un très beau programme avec tous les auteurs qu'on adore et qu'on aime rencontrer, beaucoup de lectures aussi, parce que ça reste vraiment très important dans notre librairie de faire découvrir les textes en les entendant également.
Exactement, et vive la transmission. Bon anniversaire alors à la librairie.
Merci.
Vivement Dimanche. Merci Maya Flandin, vous nous avez parlé de Filles de l'air de Fiona Kidman. C'est publié chez Sabine Vespizer, c'est traduit de l'anglais de Nouvelle-Zélande par Dominique Goy-Blanquet. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Gabriel Bordron. À la réalisation, c'est Anne-Laure Chanel. À la technique, Pierre Monteil. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr, 7h avec Russell Banks.